À toutes et à tous, et excellente année 2023 à vous. Alors, nous nous réunissons aujourd'hui pour la première séance du séminaire Flaubert 2023 consacré au thème de la famille chez Flaubert, dans l'œuvre et ou dans la vie de l'écrivain. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux communications. D'abord celle de Jean-François Louette qui entamera la séance, puis nous prendrons le temps de quelques questions et nous ferons une courte pause avant d'enchaîner sur celle de Biagio Magoda. Alors je commence par présenter Jean-François Louette qui est professeur à Sorbonne Université. Il a édité de nombreux textes d'auteurs du XXe siècle pour la bibliothèque de la Pléiade. Il a été le directeur des volumes en Pléiade consacrés à l'œuvre de Drieu-La Rochelle. Il a édité les romans et récits de bataille, les immémoriaux de Ségalène. Il a dirigé le volume Les mots et autres écrits autobiographiques de Sartre, a édité Huis clos et Les séquestrés d'Altona également. Et il a collaboré à l'édition des mémoires de Simone de Beauvoir. Par ailleurs, il a publié de nombreuses monographies et articles consacrés à Sartre. Parmi ses publications récentes, on peut citer le livre Sartre et Beauvoir, romans et philosophie, paru à la Baconnière en 2019. Il s'intéresse en général à la question du lien entre le genre romanesque et la philosophie au XXe siècle. Par exemple, sur la question du cynisme, dans le livre Chien de plume, du cynisme dans la littérature française du XXe siècle, paru à la Baconnière en 2011. Alors, la communication qu'il va présenter aujourd'hui sera sur Sartre et s'intitule Lire l'idiot de la famille. Et je vous laisse la parole.
Oui, alors merci pour votre invitation, Juliette, Florence. Je ne vais pas vraiment vous retourner vos vœux, parce que je sais bien ce que Flaubert pense des vœux de nouvelle année, mais enfin, le cœur y est quand même. J'ajouterais que pour ma part, il y a un autre phénomène de retour. Il y a 40 ans de cela, dans une tiorne de la rue d'Ulm, j'essayais de convaincre Philippe Dufour de l'intérêt de l'idiot de la famille. Enfin, ce fut un four, autant vous le dire. Il ne fut pas le moins du monde convaincu, ce qui lui a probablement permis, n'est-ce pas, de faire la belle carrière flaubertienne ou stendhalienne qu'il a faite. Nous voici, quant à nous, désormais plus de 50 ans après L'idiot de la famille, qui est paru en 1971. C'est le dernier grand livre de Jean-Paul Sartre, grand au sens de somme, peut-être aussi de sommet. En tout cas, c'est la métaphore qui vient tout de suite à Claude Burgelin quand il rencontre de l'ouvrage un Himalaya verbal. Un Himalaya verbal sans index, avec une table des matières caractérisée, dit Claude Burgelin, par la débilité, c'est-à-dire à la fois la faiblesse et la stupidité. La chose a été corrigée relativement par la nouvelle édition dont on dispose depuis 1988, la même table des matières, donc toujours aussi débile, mais deux index précieux, des noms propres et des œuvres de Flaubert. Livre très déroutant puisque c'est à la fois une biographie existentielle, mais largement fictionnelle, un essai de méthode critique et philosophique, une autobiographie indirecte, un vrai roman et un roman vrai. Une étude sur le romantisme, le pré-romantisme, le post-romantisme et une étude de cas, au sens presque médical du terme d'ailleurs, une étude du cas Flaubert. Cette monstrueuse rêverie comporte environ 3000 pages. Peut-être l'œuvre commence-t-elle sur le mode philosophique, mais assez vite, elle prend son élan. La problématique cède à des digressions brillantes. Un critique, Peter Coase, disait que très vite l'écrivain l'emportait sur le philosophe, plus de possibilité de s'arrêter. Avec plus de sobriété, mais en visant à peu près la même chose, Delphine Jaillot, dans un texte de 2021 sur l'idiot, disait qu'au fond, la figure structurelle qui régit l'idiot de la famille, c'est la digression. 3000 pages donc qui aboutissent à l'inachèvement, c'est-à-dire à ne pas aboutir. Le tome 4, on le sait, aurait dû être consacré à Madame Bovary, à la sexualité de Flaubert, et donc notamment à ses rapports avec Louise Collet. Mais il n'existe qu'à l'état de notes publiées en 1988 pour partie. C'est fort dommage, puisque dans l'idée de Sartre, n'est-ce pas, le sommet de l'œuvre et aussi de la vie de Flaubert, c'est Madame Bovary, et qu'ensuite il ne fait que décliner, malgré un bref sursaut avec l'éducation sentimentale, qui ne tombe pas dans les profondeurs où s'était plongé Salammbô. Toujours est-il qu'après ce bref sursaut, la guerre de 1870 anéantit ce pauvre Flaubert. Bref, Sartre n'en vient point à écrire de l'essentiel à ses propres yeux. Ajoutons qu'un tome 5 était prévu, qui aurait été une espèce d'ensemble, de reprise, dira Sartre un jour, une conclusion sur les quatre premiers volumes, enfin, c'est-à-dire sur les trois premiers écrits et le troisième jamais écrit, mais qui aurait été centrée, cette reprise, sur Flaubert et Napoléon III, l'écrivain et le tyran. Ajoutons enfin qu'on ne doit point oublier, pour ma part je me suis empressé de les oublier, à peu près 6000 feuillets manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale de France, qui forment l'essentiel, c'est-à-dire même pas la totalité, des avant-textes de la version publiée en 71-72. Version qui n'était d'ailleurs jamais que la troisième. Il y a eu un premier chantier en 54-55, un deuxième en 64-65, et donc un troisième chantier à partir de 68 qui mène à cette œuvre inachevée. Ajoutons à nos ajouts précédents que les feuillets qui ont été reçus par la Bibliothèque nationale, et notamment sur ceux qu'a donné en 1989 Sylvie Lebon de Beauvoir, plusieurs centaines donc de feuillets présentent un développement toujours inédit. Et donc, si je voulais provoquer mon public, mais évidemment rien n'est plus éloigné de ma manière d'être, je lui dirais que non seulement, cher public, vous n'avez pas lu en entier Les lieux de la famille, regardez-moi au fond des yeux, mais d'autre part, vous ne pouvez pas, d'un seul coup d'œil, d'un seul coup d'aile, lire les avant-textes de Les lieux de la famille. Vous devez aller à la bibliothèque Richelieu, vous avez au total 6000 plus 3000 pages, vous avez quelques 9000 pages qui vous attendent. Alors, dans un souci de conciliation, je me limiterai à ces 3000 pages, n'est-ce pas, qui ont été publiées en 1971-72. Je précise malgré tout qu'il a fallu 40 ans aux Japonais, peuple pourtant industrieux et persévérant, d'après le dictionnaire des idées reçues, pour traduire ces trois tomes. Le premier fut publié, le premier tome de cette traduction en japonais, fut publié avec une hâte suspecte en 1982, 10 ans après la parution, donc, en français. Le dernier vient seulement de l'être, avec une sage lenteur, en 2022. Comment contourner le problème, c'est-à-dire comment entrer dans le monde de la famille? Je pourrais vous conseiller tel ou tel résumé de l'ouvrage, en particulier l'un d'entre eux qui a été publié dans la revue de métaphysique et de morale par Gilbert Cohen en 1976. Résumé de 30 pages quand même. Pour ma part, j'avais formé le projet de proposer une anthologie d'idiots de la famille à Gallimard qui ne semblait pas hostile. Moins de Sartre, c'est toujours une bonne chose aux yeux de Gallimard. Mais je l'avoue, j'ai paressé, d'autant qu'il eût fallu choisir peut-être les meilleures pages parmi les 6000 pages de feuillets manuscrits. Donc la chose reste à faire, je la recommande à tel ou tel qui aurait de l'audace et du courage, par exemple à ma doctorante remarquable qui doit nous écouter, Louise May. Alors pour en venir maintenant à l'ordre que je donnerai à mon propos, je partirai d'un principe sartrien qui n'est pas un principe flaubertien précisément. On écrit pour quelqu'un. L'écriture est adressée, l'écriture est destinée. Donc, en droit, on peut étudier l'idiot de la famille en fonction de trois publics possibles, les amateurs de Sartre, les amateurs de méthodes critiques, les amateurs de Flaubert, trois publics qui, bien évidemment, peuvent se recouper. Alors, comment faire, malgré mes habitudes, mes mauvaises habitudes prises depuis 40 ans aussi, pour ne pas m'adresser en priorité aux amateurs de Sartre? Je dirais malgré tout deux petites choses sur ce point, deux remarques qui en un sens ne concernent d'abord que les amateurs de Sartre. La première, c'est que la fonction du livre dans le parcours de Sartre est très intéressante. Pierre Verstraeten l'a souligné, c'est un livre par lequel Sartre essaie d'échapper à la fossilisation, c'est-à-dire disons au vieillissement précoce de ses intérêts et positions idéologiques. Il essaie d'échapper à la fossilisation en écrivant certaines pages de l'idiot de la famille en fonction de son propre engagement le plus actuel à l'extrême gauche. Par exemple, la révolte des collégiens de Rouen, à laquelle participe Gustave Flaubert, Sartre l'écrit sur l'histoire de 1968 avant l'époque. Et Jean Bourgault a étudié la chose de très près dans un article des Temps modernes en 2010. D'autre part, échapper à la fossilisation suppose que Sartre remette en jeu sa propre pensée de la liberté. Il prend une certaine distance par rapport aux thèses de l'être et le néant, notamment parce qu'il accorde à la psychanalyse freudienne une toute autre place. Il remet en question sa pensée de la liberté, peut-être parce qu'elle a été au fond trop bien reçue par la bourgeoisie française, au moins intellectuelle, comme en atteste le succès, malgré toutes les controverses de Sartre. Est-ce parce que la liberté active, au fond, ne heurte en rien les valeurs bourgeoises? Nous agissons, nous sommes libres, nous sommes de libres projets, nous sommes de libres entreprises, vive la libre entreprise. Ainsi, le monde bourgeois a fait un triomphe à une liberté qui voulait plutôt défaire ce monde bourgeois. Et Sartre de se demander comment il a pu être, eh bien, le prophète d'une époque dans laquelle il ne se reconnaît pas cette société bourgeoise française. Ce qui est d'ailleurs rejoué la difficulté qu'a connue Flaubert. Flaubert vouait la bourgeoisie aux hégémonies, mais c'est un public bourgeois qui a fait le succès de Madame Bovary. Enfin, évidemment, ce qui implique pour Sartre un risque de fossilisation, c'est le succès du structuralisme. Lire Le Capital en 65, les écrits de Foucault de Lacan en 66, Les mots et les choses, la même année. Foucault affirme d'ailleurs en 1966 à la télévision, dans l'émission Lecture pour tous, que Sartre est un homme du 19e siècle, de ce siècle où l'on croyait encore dans l'homme. Et il y aura cet entretien bien connu avec Claude Bonnefoy sous le titre « L'homme est-il mort ?» hein, repris dans les 10 écrits de Foucault. Sartre réplique dans un entretien accordé à L'Arc avec Bernard Pingot et aussi dans L'Idiot. Mais il réplique à sa manière, c'est-à-dire en tourbillonnant autour de l'adversaire. Premièrement, il réplique par assentiment. D'accord, avec l'idiot de la famille, moi, Sartre, certes un peu ironiquement, j'accepte en m'identifiant à Flaubert d'être, selon les termes de Foucault, assez méchant, cet homme du 19e siècle qui essaie de penser le 20e siècle. Donnons raison à l'adversaire. À la suite de quoi, n'est-ce pas, sortons le grand bâton. Premièrement, après l'assentiment, le dissentiment. Quel sens y a-t-il à dire que le 19e siècle est le siècle de l'homme? Le 19e siècle, siècle humaniste. Allons donc, Foucault se trompe, quelle vue superficielle. L'idiot de la famille montre précisément que toute la société bourgeoise, après juin 1848, est en fait mue par la haine de l'homme, et Flaubert le premier. Troisième manière de répondre, l'antécédence. Foucault pense le langage de manière structuraliste. Allons donc, ça fait bien longtemps qu'on en est arrivé là, il suffit d'ouvrir Flaubert, il y a déjà un côté structuraliste chez Flaubert. Flaubert ne croit pas qu'on parle, on est parlé. Tome 1, page 623. En quoi d'ailleurs il a peut-être tort, et Sartre estime qu'on parle et qu'on est parlé les deux à la fois. Comme aurait dit Merleau-Ponty, il y a à la fois la parole parlée et la parole parlante. Autrement dit, non seulement le structuralisme fait une erreur quant au langage, mais en plus cette erreur, il ne l'a même pas inventée. Fécondité de l'erreur, mais à condition que ça soit la vôtre, si c'est celle déjà du 19e siècle, où est l'originalité de Foucault? Réponse par enveloppement aussi. Sur le langage, ma thèse est supérieure. Je fais la langue et elle me fait, autrement dit, je reprends la thèse de Foucault, je l'accepte, mais je la dialectise. Enfin, tournons toujours autour de Foucault, et le coup de grâce, c'est bien sûr le dépassement. Une histoire littéraire rénovée est possible, c'est l'un des enjeux d'Idiot de la famille. Foucault, lui, se contente de découper des tranches dans l'histoire, mais il ne sait pas rendre compte du passage du temps, du mouvement, par exemple, qui fait passer d'une épistémée à une autre. Donc voilà une première remarque adressée peut-être d'abord aux amateurs de Sartre. La deuxième sera plus brève. Vous vous souvenez sûrement de ce passage des mots où l'on voit comment le petit Poulou, Jean-Paul Sartre, ne comprenait pas la fin de Madame Bovary, le chagrin de Charles avant tout. Autrement dit, Poulou fut lui aussi, à 6 heures, un idiot de la famille, un lecteur idiot, à la fois un enfant prodige et, face à Flaubert, face à Madame Bovary, un idiot. Et Madame Bovary, c'est toujours le roman qu'à la fin de sa vie, il ne pourra expliciter, ne venant pas à bout du 4e volume de l'idiot. Ainsi, son parcours d'écrivain se trouve pris entre cette stupeur initiale et ce silence final. Et quel symbole! Peut-être, s'il était parvenu à rendre compte de Madame Bovary, aurait-il, eodem facto, explicité le sens de l'écriture pour lui, et se serait-il du coup fermé à la littérature. Fécondité de l'inachèvement. Le deuxième public qu'on pourrait viser est le public des amateurs de méthodes critiques. Est-ce qu'il en reste? Je ne sais pas. Aujourd'hui, la critique littéraire tend à se réduire au genre biographique. Vous aurez noté d'ailleurs qu'on ne se contente plus d'écrire des biographies de Victor Hugo. On se consacre très longuement à Juliette Drouet, avec talent, science, style. Bientôt, sans doute, en viendra-t-on à Minou Drouet, puis à Minou Minou tout court. C'est le progrès. Or, puisque désormais règne le genre biographique, autant s'instruire du genre biographique. Et l'idée de la famille a beaucoup à apprendre sur le plan de la méthode à qui se lance dans une biographie d'écrivain. Un certain nombre de concepts mériteraient l'intérêt. Le concept de programme de vie, le concept de spirale qui régit la temporalité d'une existence, le concept de vécu, la pratique, mais aussi toutes les difficultés de l'empathie, l'exigence de pluridisciplinarité. Tout cela me semble rester fort instructif dès lors qu'on veut écrire une biographie après avoir tenté de penser sa méthode, laquelle chez Sartre, on sait, est dialectique. Qu'est-ce que c'est que la dialectique? Une des meilleures définitions que Sartre en donne et la plus courte, c'est une logique de la temporalité. La dialectique, c'est une logique de la temporalité, qu'il s'agisse de l'histoire avec H majuscule ou qu'il s'agisse de la vie d'un homme. De là, les deux grands moments de l'idée de la famille, d'abord sa constitution, la constitution de Flaubert, c'est-à-dire les conditions auxquelles il fut soumis, puis sa personnalisation, c'est-à-dire la reprise de ses conditions par sa liberté propre, le tout dans un milieu soigneusement décrit. Ce sont les deux premiers tomes, Flaubert saisi de l'intérieur, puis renversement, en juin 72, le tome 3, Flaubert saisi de l'extérieur, étude des rapports de Flaubert avec son époque et essentiellement d'abord un champ littéraire. Flaubert est un apprenti auteur post-romantique. Cette situation définit pour lui la littérature à faire. Et c'est là que se situe, bien sûr, l'étude d'histoire littéraire de Sartre, qui est une étude du champ, hein, la littérature à la Voltaire, le romantisme. Dans l'ensemble de cette étude, Sartre a la volonté de contourner la théorie marxiste du reflet, qui, bien sûr, est une cible commode hein, durant toute cette période, intéressante pour l'histoire littéraire, la sociologie de la littérature et la méthodologie de la biographie, la notion d'hystérésis ou d'effet décalé. Une formule résume cette notion difficile. La chute de 44, la crise de Flaubert à Pont-l'Évêque, reflète aux lecteurs de 57, lecteurs de Madame Bovary, leur propre déchéance de 48. Leur déchéance, donc, lors de juin 1848, lorsqu'il lâche les ouvriers. Et voilà comment le roman peut exprimer à la fois une névrose privée, qui est manifeste dès 44, et une névrose historique, celle de la bourgeoisie du Second Empire, qui a bien conscience d'avoir trahi la révolution de juillet 48. Donc, le roman a quelque chose de prophétique par ses origines dans la névrose de Flaubert. Mais y a-t-il une névrose de Flaubert? Il faut ici se tourner, et c'est évidemment là que les choses deviennent pour moi difficiles, vers les amateurs de Flaubert. Il faudrait un peu traiter le sujet du séminaire, la famille quand même, mais surtout il faudrait répondre à cette question redoutable et inévitable. Pourquoi un Flaubertien devrait-il, enfin non, soyons modestes, pourrait-il s'intéresser à l'idée de la famille? De là, un plan en 5 points, mais probablement ne l'avais pas tout traité. Premièrement, Sartre n'est pas de la famille des Flaubertiens. Deuxièmement, Gustave est de ma famille, et je poserai la question de l'irrévérence sartrienne. Troisièmement, avec l'idée de la famille, sommes-nous face à une gémellité à exorciser? Point d'interrogation. Quatrièmement, j'en viens, donc je n'en viendrai pas, au sujet de la famille comme médiation. Et cinquièmement, La vraie famille d'un écrivain, vous vous en doutez, ce sont les mots. Alors, premièrement, Sartre n'est pas de la famille, celle des Flaubertiens. Vous vous souvenez que les années 1970, c'était celle d'un renouvellement des études sur Flaubert. Un recueil fit date, celui de Raymond Debré-Jeunette, Flaubert, dans la collection Miroir de la critique. Dans ce contexte, l'idée de la famille est apparue en retard. Il a suscité des critiques assez vives chez les Flaubertiens, à vrai dire, à part Jeanne Behme, qui y était assez favorable à ce gros ouvrage, on ne trouve guère d'assentiment. Jean Bruneau, en particulier, a écrit un article fort connu, hein, publié dans les Lectures de Sartre, Jean-Paul Sartre, biographe de Flaubert. C'est un article sévère et même un peu pincé que je rappelle rapidement. Bruneau regrette d'abord que Sartre, à la disposition de qui il s'était mis, n'ait pas utilisé ses services. Il est aussi un peu vexé que Sartre ait contesté certaines des analyses proposées par ledit Bruneau dans sa thèse en 1961, les débuts littéraires de Flaubert. Et il soumet du coup l'idiot de la famille à une sorte de soutenance de thèse posthume. Bon, c'est un peu facile quand même, parce que, n'est-ce pas, en 86, le candidat est défunt. Et il ne risque pas de se défendre. Se plaçant sur le plan de la vérité historique, Bruneau relève différentes erreurs d'interprétation ou de fait. Sur le plan de la famille de Gustave, en particulier l'inimitié qu'il suppose entre Gustave et son père, qu'est-ce qu'il atteste? Sur le plan de la lecture des textes de jeunesse, Sartre a bien tort de tout vouloir expliquer par la névrose. Et puis, justement, sur le plan de la thèse générale, hein, c'est le fameux débat entre épilepsie et névrose. Bruneau estime que Sartre reprend le diagnostic de René Duménil, une névrose, une forme d'hystérie, disait Duménil, parce que cela lui permettait d'utiliser, dans le cas de Flaubert, la psychanalyse existentielle. Et aussi de constituer un destin organique, l'épilepsie, une option, le choix de la névrose. Alors, l'article de Bruneau n'est pas lui-même exempt d'erreurs factuelles, n'est-ce pas? Par exemple, il remarque l'absence de toute référence dans le livre de l'idiot de la famille au Gustave Flaubert de Thibaudet. Il assure que l'expression des Montfaucons que Sartre attribue à Thibaudet, il ne l'a jamais retrouvé chez Thibaudet. Elle figure pourtant dans la conclusion du livre de Thibaudet sur Flaubert, et Thibaudet est cité dans l'idée de la famille. Bon, vous me direz que moi j'ai l'avantage d'avoir l'index, hein, donc c'est plus facile à repérer. Jean Bruneau conclura un peu plus tard en disant « Au fond, le livre me paraît extrêmement important pour tout le monde, mais pas tellement pour les flaubertistes. » Et même certains jeunes critiques qui s'orienteront vers Sartre plus tard ne sont pas sans réserve. Jacques Le Carme, dans la NRF en avril 72, doute par exemple que Madame Flaubert ait été une mère glacée et glaçante, se demande si sur les difficultés de Gustave Enfant à apprendre à lire, il n'y a vraiment pour témoignage que celui d'une nièce qui rapporte les propos de sa grand-mère. Nièce infidèle et grand-mère gâteuse, on peut le supposer. En tout cas, Caroline Commanville, la nièce aux yeux de Jacques Le Carme, est une calamiteuse nièce, s'il en fut. Donc, il décrédibilise son témoignage et, ipso facto, l'idée de Sartre que Flaubert Enfant aurait eu du mal à apprendre à lire. Bref, c'est de la critique fiction au sens où on parle de science-fiction. Et Claude Burgelin, qui est très favorable à l'ouvrage, dit « Quand même, on aurait bien aimé savoir aussi comment s'effectue la genèse du Flaubert de l'éducation sentimentale et de Bouvard et Pécuchet. Ce sont de grands massifs romanesques que Sartre laisse de côté. » Sartre n'écrit guère sur les plus grands textes de Flaubert. C'est fâcheux. Les écrits de jeunesse, c'est bien mignon, mais enfin, ça va un temps. Donc, vous voyez, les Flaubertiens, certains jeunes critiques qui vont devenir des Sartriens, le mieux, en fait, ne serait-il pas de demander à l'illustre Gustave lui-même ce qu'il pense des milieux de la famille? Bon, évidemment, la chose peut sembler difficile, sauf à faire tourner les tables, mais là, nous serions chez Victor Hugo. Il existe néanmoins une solution miraculeuse. Par le biais d'un texte, une curiosité, sur laquelle je me permets d'attirer votre attention pour poussiéreux que vos doigts en dussent ressortir. Cette curiosité, c'est un article qu'en octobre 1972, Alfred Fabrelus fit paraître dans la Revue des Deux Mondes. sous le titre Sartre par Flaubert. Alors, comme je sais que personne ne me croit jamais, hein, je montre la chose, cela existe. Sartre par Flaubert, bon, vous voyez qui est Alfred Fabrelus, hein. Il est né avec une cuillère dorée dans la bouche, c'est le petit-fils du fondateur du Crédit Lyonnais. C'est l'époux, non point de Margot la Rabouilleuse, mais de la princesse Charlotte de Faucigny-Lucinge. C'est un publiciste et un journaliste, très critique du Front populaire, c'est curieux vu ses origines sociales, mais très proche du Parti populaire français de Doriot, c'est toujours aussi curieux. Sous l'occupation, il publiera dans la Nouvelle Revue française de Drieux, soutiendra Pétain, sera interné 4 mois à la Libération pour suspicion de collaboration, autant d'éléments qui, bien sûr, lui assureront une fortune certaine dans les milieux de droite après la Deuxième Guerre mondiale, très vite. Donc, on le retrouve à la Revue des Deux Mondes et il présente en 1972 son article de la manière suivante. On trouvera ici, sous la forme d'un passif de Flaubert, une critique du dernier livre de Jean-Paul Sartre sur Flaubert. Un pastiche. Donc un morceau de Flaubert, enfin de pseudo-Flaubert en plus. Chic alors, vous imaginez mon excitation. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une lettre de Flaubert à Louis Bouilhet. Flaubert l'appelle comme de juste mon Roquentin. Lettre que Flaubert a écrit 10 années après la mort dudit Bouilhet, avec un peu de latitude, puisque Bouilhet est mort en 1869, et la lettre que forge Fabrelus est datée de 1880, l'année qui sera d'ailleurs celle de la mort de Flaubert. Chic, chic, chic. Hélas, hélas, hélas. Autant le dire d'emblée, le pastiche en tant que tel est assez faible. Disons que, puisqu'il voulait écrire une lettre de Flaubert, Fabrelus aurait gagné à lire d'un peu plus près, eh bien, l'analyse des procédés chers à Flaubert épistolier, par sa cible, c'est-à-dire par Jean-Paul Sartre. Vous voyez l'idiot de la famille, tome 1, page 877-881. L'interpellation, l'abandon au pathos, l'éloquence, ces lettres sont des discours. Bon. Quoi qu'il en soit, dans cette lettre, Flaubert présente à Bouilhet son prochain roman. Il veut situer, assez curieusement, au XXe siècle, sous le règne d'un général intelligent, qui aurait en lui un peu de Louis XIV et un peu de Napoléon Ier. Je gage que ce général se serait prénommé Charles, peut-être même Charles Golary. Et ce roman, en tout cas, si je laisse de côté cette hypothèse qui n'est que mienne, s'intitulerait « L'éducation révolutionnaire ». Non pas l'éducation sentimentale, mais l'éducation révolutionnaire. On y trouvera, précise Gustave, dirigé par Alfred, un personnage féminin qui aura, je cite, « des sentiments, mais surtout des idées ». Et pour prolonger le paradigme qui mène de Bovary à Bouvard, le Gustave d'Alfred Fabrelus précise que ce personnage, il le nommera Beauvoir. Elle écrira, d'ailleurs, puisqu'au XXe siècle, Emma Bovary est elle-même devenue romancière. Et pour Rodolphe, on n'arrête pas l'internationalisation, n'est-ce pas, elle aura un Américain, comme dans les mandarins. Rodolphe, ce sera en quelque sorte Nelson. Le personnage principal, on s'en doute, s'appellera quant à lui Jean-Paul. Et il se mettra, je cite, à écrire un ouvrage sur moi, Gustave Flaubert. Dès lors, Alfred Fabrelus constitue cette lettre fictive en droit de réponse anticipé. Voici donc que Flaubert, grâce à Fabrelus, a lu l'idiot de la famille et qu'il en peut présenter une critique. Fabrelus étant ce qu'il est, c'est-à-dire somme toute plus Faber et besogneux que Lux et lumineux, son Flaubert, hélas, n'a pas tout à fait compris l'idiot de la famille. Par exemple, de l'indisable, il fait l'ennemi personnel de Jean-Paul Sartre. Bon, c'est quand même tout le contraire qui ressort du livre. L'indisable n'est pas du tout l'ennemi personnel de Jean-Paul Sartre, au contraire. Pour résumer, ce Flaubert à la sauce Fabrelus formule 3 critiques contre Sartre. D'abord, le ton. Sartre s'exprime en me contestant. Il comptera au nombre de mes procureurs d'outre-tombe. Voilà un plaisir qu'il se donne dans l'idiot de la famille. Il y assouvit son agressivité. Ensuite, le fond. Sartre ne fait que de la fausse science à mon sujet. Constamment, on prend l'auteur en flagrant délit d'ignorance. et l'erreur se développe, prend consistance et ampleur. Par exemple, ce que Sartre, on y revient donc, hein, du rapport de Flaubert, ce que Sartre écrit du rapport de Flaubert à sa mère, dont la froideur s'opposerait à la chaleur d'Anne-Marie pour son petit poulou, voilà qui semble bien fragile à Gustave Flaubert, selon Fabronius, Gustave à qui on ne la fait pas. Hein. Et voici le meilleur passage du pastiche. N'est-ce pas énorme, cette guerre de deux nourrissons, comparant agressivement des tétés dont ils ne se souviennent pas, sans que personne soit à même d'arbitrer leur débat. Donc, critique du ton, critique du fond et critique du double fond, parce que Flaubert, mu par Fabrelus, lâche la phrase que l'on attendait, Jean-Paul Sartre, c'est moi. Pas seulement Madame Bovary, mais aussi Jean-Paul Sartre. Je l'ai toujours hanté, je suis un double, un remords dont il cherche à se débarrasser. Pourquoi? Parce que moi, Gustave, je n'ai pas fait passer la politique avant la littérature. Flaubert et Sartre, dirais-je, seraient à la fois des doubles l'un de l'autre et traîtres l'un par rapport à l'autre. Dans tous les sens du terme, ils se doublent. Conclusion que Alfred Fabrelus prête à Gustave, dans l'éducation révolutionnaire, Jean-Paul sera le génie qui illustrera la bêtise humaine, laquelle, comme chacun sait, est sans doute. Et en particulier la bêtise de la littérature philosophante. On trouve d'ailleurs un topos de la droite littéraire, hein, le style contre les idées, pour reprendre le titre d'un ouvrage regroupant des textes de Céline. Bon, il me semble qu'on pourrait sans trop de peine faire mieux qu'Alfred Fabrelus, hein, pardon pour ce dédain, on pourrait tirer de l'éducation sentimentale, en particulier bien des phrases que Gustave eût pu citer, puisque c'étaient les siennes, et des phrases qui semblent absolument contre toute chronologie viser Sartre, et en particulier le dernier Sartre, celui des années 70. Par exemple, selon Sénécal, l'art devait exclusivement viser à la moralisation des masses. Bon, je dis ça dans l'éducation sentimentale, je me dis, tiens, tiens, voilà une phrase que Gustave a écrite en pensant à Sartre. Ou bien, Pellerin, n'est-ce pas, défile, vous vous en souvenez, avec les artistes peintres en direction du gouvernement éphémère de la Deuxième République, et il pense que des œuvres sublimes se produiraient puisque les travailleurs mettraient en commun leur génie. C'est déjà le rêve de l'écriture collective qu'il arrivera à Sartre de caresser vicieusement à la fin de sa vie lorsqu'il est en coquetterie avec les Mao. Donc, lui, Sartre, n'est pas de notre famille. Mais l'inverse n'est pas vrai. Gustave est de ma famille, clame Sartre. Oh oui, cette relation est très importante, capitale pour lui. C'est une des lectures qui, sur le plan littéraire, ont le plus compté, bien qu'il ait été un lecteur absolument boulimique. Et bien que son écrivain favori ne soit pas Flaubert, mais comme chacun sait, Stendhal. Alors, familiarité. Pour Sartre, Flaubert fait partie de la famille. Vous vous souvenez de cette page des mots sur Baudelaire, sur Flaubert, je m'exprime sans détour. J'ai toujours envie de répondre quand on me blâme, ne vous mêlez pas de nos affaires. Ils m'ont appartenu, vos génies, je les ai tenus dans mes mains, aimés à la passion, en toute irrévérence, avec tendre de gants, avec eux. J'avais pour familier Voltaire, Corneille. Aujourd'hui encore, ce vice mineur me reste, la familiarité. Je les traite en labadins, ces illustres défunts. Le terme labadins vient d'une comédie de Labiche, hein, au sens de camarades de collège ou de pension, et Proust, nous dit le dictionnaire, l'emploie dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Pourtant, en choisissant Flaubert pour objet, Sartre s'intéresse à quelqu'un qui n'est pas son genre. Et dès lors, comme souvent dans les disputes ou dans les relations amoureuses problématiques, il y a de la méchanceté. Comme souvent dans les familles, d'ailleurs. Par exemple, Sartre traite le frère aîné, Achille, dans une seule et même page, au risque de navet et de mollusque, comme 1,578. Et il n'épargne pas Flaubert lui-même. Les Goncourt, qu'il n'aime pourtant pas, dit-il, n'ont point, je cite, la lourdeur, l'obstination et la profondeur du percheron normand. Flaubert, percheron normand. Comment peut-on oser écrire cela? Voilà pourquoi on a beaucoup reproché à Sartre, Marc Robert en particulier, eh bien, de faire de Flaubert quelqu'un qui jouissait douloureusement de sa passivité, un truqueur qui ne voulait pas plus travailler, au fond, un truqueur normand, en essayant en vain de faire avancer. On pourrait ici analyser un passage bien connu de la Nausée, la statue consacrée à la statue de Gustave Impécrase, pour montrer à quel point Sartre laisse transparaître des enjeux profondément familiaux. Bon, je vais très vite, hein. Il est clair que cette statue en bronze suscite trois identifications. La première est indiquée par le texte, Impécrase, inspecteur d'académie, érudit, littérateur de province. Là, on est dans l'autodérision. C'est Sartre qui peint son avenir dans les mots en chantre d'Aurillac. Il s'agit de mettre à distance, par l'ironie, un avenir possible de gloire locale. Deuxième identification, c'est un peu comme si le grand-père était là sur ce socle coulé en bronze. Impétras, c'est l'impérieux Karl Schweitzer. Bon. Et enfin, bien sûr, le prénom Gustave, la stature de géant, l'immense érudition. Difficile de ne pas penser à Flaubert, présenté ici comme un conservateur, coulé dans le bronze, et on sait assez les connotations scatologiques de l'expression. Pourquoi une statue? Parce que Impétras figure eh bien, la bêtise, n'est-ce pas, statufiée tout entière, qui est de la nature du granit, écrit Flaubert. Et puis, la statue figure aussi peut-être la gloire comme minéralisation supérieure. La statue marquerait cet effet de la gloire qui pétrifie. Sans compter que cette statue fait songer aux statues volantes qu'on rencontre dans la nouvelle La Chambre. Elle appartient à cette série des grandes figures littéraires qui ont fait trace dans la langue et qui, par là même, bien loin de voler comme des oiseaux, vous volent votre pensée, voire votre œuvre, comme des voleurs. Donc la statue de Gustave Impétras est associée aussi à ces grands intertextes, dont celui de Flaubert, qui vous écrase, vous pétrifie, vous dérobe votre propre travail. Alors, cette irrévérence qui confine à la scatologie dans la Nausée suscite l'emploi, me semble-t-il, dans l'idiot de la famille, de deux tonalités que l'on ne se serait pas forcément attendu à trouver dans un essai biographique. La première, c'est le drame, voire un certain tragique. Flaubert se plaint sous la plume de Fabrelus que dans l'idiot de la famille, tout est artificiellement dramatisé. Notre vie de famille est une suite d'assassinats. La malédiction paternelle, premier assassinat, on tue un enfant. Puis la chute dans la nuit à Pont-l'Évêque en 1844, nuit évangélique, nuit obscure de Jean de la Croix, envers de la nuit de feu pascalienne, nuit purificatrice de Phèdre, Phèdre mourante dans la tragédie. Donc d'un côté, des accents tragiques, et de l'autre, des accents de comédie, très évidents. Les accents tragiques ont quelque chose de surjoué, on n'est pas loin souvent de l'héroïque comique. Les accents comiques, eux, sont l'occasion pour Sartre de déployer une veine qui lui est chère. Il lui arrive, à Sartre donc, de faire parler la mère de Flaubert, soumise à son chirurgien d'époux, au style direct. J'ai d'abord protesté contre la décision qu'il avait prise. J'ai boudé. Et puis, j'ai reconnu délicieusement mes torts. Il avait raison, comme toujours. Voici donc que la mère de Flaubert devient un personnage qui tient à la fois d'Anne-Marie Schweitzer, de Griselidis et, dans ses meilleurs moments, des jeunes femmes de Marivaux. Mais la référence peut être moins noble. Voici que le père de Flaubert, lui, en sens inverse, s'adresse à sa femme. Et il ne me semble point qu'il la traite comme une héroïne de Marivaux lorsqu'il lui dit « Viens là, que je te fasse un notaire. » On est plutôt chez la biche, chez Fédo. Tome 2, page 1480, hein, je n'invente rien. Alors, quelle raison donc à ce ton d'irrévérence? Il y a celle que donne la page des mots que j'ai cités, une si longue fréquentation dès l'enfance. Bon, c'était en quelque sorte mais jouer ces grands écrivains. Mais de plus, dans l'idée de la famille, Sartre veut sonner la fin de l'art absolu. Donc, par ce ton d'irrévérence, il me paraît qu'il dénonce un certain discours pathétique de Flaubert, un discours qui dramatise et qui, en même temps, sanctifie non pas seulement la condition de l'écrivain, comme les romantiques avaient pu le faire, savez-vous, Musset, le Pélican, le Christ, gnagna, mais aussi l'acte même d'écrire. De sorte qu'avec lui, comme l'avait bien vu Claude Burgelin, avec Flaubert, au scripteur tragique succède la scription tragique. On pouvait écrire cela en 1974. La scription tragique, donc. Or, selon Simone de Beauvoir, Sartre, lui, s'est amusé en écrivant le milieu de la famille, au moins dans les pages narratives et dans les portraits. Il n'a pas la scription tragique. Troisième raison à ce ton d'irrévérence, elle vaut comme critique d'une attitude peut-être un peu trop répandue aux yeux de Sartre face au texte, l'admiration qui chosifie et qui glace, alors que l'irrévérence est peut-être plus profondément créatrice. Je me souviens ici d'un texte de Brecht qu'on peut lire dans L'art du comédien qui s'intitule « La sanctification par le sacrilège ». Et il dit que ce qui maintient en vie les pièces classiques, c'est l'usage qu'on en fait, même lorsqu'il n'est qu'un abus. Un culte rigide serait lui aussi dangereux, je cite Brecht, que ce cérémonial de la cour de Byzance qui interdisait aux courtisans de porter la main sur les personnes de sang royal, si bien que celles-ci, tombant royalement sous dans un étang, n'étaient secourues à personne. Bon. Sartre, lui, ne pratique point ainsi. Il lit les grands écrivains, Flaubert en particulier, pour se faire des idées et un peu aussi pour rire à leurs dépens, comme il disait de ses lectures philosophiques, prenant l'exemple de Heidegger, dans les carnets de la Drôle de guerre. De sorte que cette irrévérence ne vaut pas insulte. Le titre a été pris parfois comme tel. Silvio Yeshua, qui aurait peut-être ce jour-là mieux fait de continuer à s'occuper de Paul Valéry, trouvait que le titre valait insulte et on trouvera sa remarque dans la production du sens de Flaubert. Bon, pourquoi pas après tout, hein, Gustave ne l'aurait pas volé, lui qui dans une lettre écrite à Maupassant en juin-juillet 1870 a osé parler de, ouvrez les guillemets, cet idiot de Stendhal, fermez les guillemets, cet idiot de Stendhal. Enfin quoi? Bon. Jeanne Behm répondit ce jour-là à Silvio Yeshua que le titre était ironique et que c'était une reprise du jugement traditionnel qu'on porte sur ce genre d'être pas tout à fait cuit, à demi inachevé, n'est-ce pas, dans les familles. C'est un effet d'ironie par mention de ce point de vue-là. En fait, le titre est polysémique et je pourrais y entrevoir cinq significations pour conclure ce deuxième moment de mon propos sur l'irrévérence. D'abord, il reprend donc ironiquement, un de ces lieux communs auxquels Flaubert est si attentif. C'est dur, et c'est même un peu cruel, n'est-ce pas, d'enterrer Flaubert sous un lieu commun, ou de lui rendre cet hommage irrespectueux et irrévérencieux sous un lieu commun de la langue. Mais on peut évidemment jouer sur les différents sens du terme « idiot » en fonction de son étymologie, Sartre ayant appris, comme toute cette génération, dans un certain milieu du moins, beaucoup de grec et de latin. L'idiotesse, c'est le simple particulier, celui qui n'a pas de charge élective, celui même plus tard qui n'est pas citoyen. François Hartog donc note quelque part qu'ainsi s'opère une dépolitisation de l'idiot. L'idiot, c'est donc aussi celui qui se tient à l'écart de la politique. Ce serait la deuxième signification. Et quelle flèche du Parthe alors? Flaubert, idiot de la famille, à l'écart de la politique, flèche du Parthe paradoxale, puisque tirée dès le titre. Et non point à la fin de l'engagement, c'est-à-dire du combat. Idiotesse signifie aussi profane, ignorant, et se spécifiera pour viser l'ignorance des lettres. L'idiotesse deviendra celui qui ne sait ni lire ni écrire, l'idiot, celui qu'on trouve dans les monographies ou les traités médicaux d'Esquirol, par exemple. Au premier degré, l'idiot n'a que des mots et des phrases très courtes. Au deuxième, C'est pire, il n'a plus que des monosyllabes et quelques cris. Et au troisième degré, le pauvre, il n'y a ni parole, ni phrase, ni mot, ni monosyllabe. Où en est Flaubert? On retrouve donc ici la malédiction paternelle lancée contre Gustave. Mais un retournement s'opère. Dans la tradition chrétienne, et l'idiot devient l'illuminé, le fou de Dieu, celui qui accède à un savoir supérieur, parfois par les voies du mysticisme, souvent même. Et c'est aussi le retournement qui se produit dans l'idiot de la famille. Le titre annonce aussi le succès de Flaubert, qui aura réussi à placer, c'est la thèse de Sartre, son trouble face au langage, son idiotie, au cœur même de son œuvre, et à placer l'idiotie au cœur même de la littérature moderne. Tout le livre de Sartre est consacré à ce renversement. Cinquième signification, le titre vaut enfin comme un retour à l'envoyeur. Dans les mots, n'est-ce pas, je le disais, Sartre racontait comment 20 fois il relut les dernières pages de Madame Bovary. À la fin, j'en savais des paragraphes entiers par cœur, sans que la conduite du pauvre veuf me devint plus claire. Il trouvait des lettres. Était-ce une raison pour laisser pousser sa barbe? Il jetait un regard sombre à Rodolphe, donc il lui gardait rancune. De quoi, au fait? Disons que, avec l'idiot de la famille, Sartre, pour employer une métaphore footballistique, égalise. 1-1. Un idiot partout. Désormais, ils sont quittes. Tu m'as fait idiot, je te fais idiot. On aura relevé la drôlerie de ces lignes, leur vis comica. Sartre, lui aussi, sait faire l'idiot pour faire le comique. Et c'est l'un des traits par lesquels Sartre peut apparaître comme un double de Flaubert. Ce qui m'amènerait en droit à une troisième partie, une gémellité à exorciser. Alors, il faut dire ici un mot, aussi synthétiquement que possible, de l'aspect d'autobiographie indirecte que revêt l'idiot de la famille. Sartre, d'ailleurs, dit le principe de la chose à propos de Gustave. C'est en se projetant dans un autre que Flaubert nous renseigne le mieux sur son propre état. C'est en se projetant dans un autre que Flaubert nous renseigne le mieux sur son propre état. Tome 3, page 658. Alors, il y a trois aspects que j'indique. À mes yeux. Hein. Le premier, c'est que l'idiot de la famille est aussi une œuvre de l'œuvre et que donc certaines lignes ou pages sont des commentaires précis par Gustave interposé de la nausée, du mur ou bien d'une pièce de théâtre comme Kean. Un seul exemple, Gustave mijote dans sa fade contingence. Oui, enfin, comme Roquentin. Et d'ailleurs, Roquentin, comme on sait, c'est un mot de Flaubert. La nausée doit beaucoup à Flaubert, en particulier pour la scène d'adieu entre Roquentin et Annie, à l'éducation sentimentale et à la dernière scène entre Marie et Frédéric. Je pourrais le montrer en détail, mais tant pis. Deuxième plan sur lequel il faudrait se placer, les effets de miroir. S'il y a une question de la gémellité, c'est que Sartre a fabriqué une identité entre lui et Flaubert. Deux enfants surnuméraires, deux nourrissons moribonds, remplaçant une fille que leur mère voulait, ne s'aimant guère eux-mêmes, enfants comédiens, etc., etc. Enfin, troisième aspect, il y a des reflets entre deux conceptions de l'écriture. C'est évidemment essentiel. J'indiquerai tous trois. Le premier, c'est que Flaubert et Sartre sont tous deux des grands maîtres du grotesque et du comique. Je sais que ce n'est pas exactement la même chose. Je sais aussi que le grotesque de Flaubert est généralement plus sombre que les pages comiques de Sartre. Toujours est-il que parmi les meilleures pages de Milieu de la famille, je place celle qui tente de comprendre la vocation comique de Flaubert et, du même coup, la vocation comique de Sartre. L'un fut moqué au collège de Rouen, l'autre souffre douleur à La Rochelle. Gustave se serait fait à la fois risible et maître du rire dans le personnage du garçon, ce géant potache et rablaisien, et Sartre lui aussi réagira en faisant rire ceux qui le faisaient souffrir. C'est une vengeance, c'est une revanche. Faire le bouffon, explique Sartre, c'est commander. Le bouffon est le bouffon du roi, mais il est aussi le roi du roi. Faire le bouffon, c'est faire rire. Et faire rire, c'est faire rire au doigt et à l'œil. C'est exercer une emprise. Bon, je n'entre pas dans les détails. Il y a une composante presque criminelle et en tout cas sadique dans le rire, hein, qui est une agression défensive. Deuxième reflet entre deux conceptions de l'écriture, enfin, du moins à en croire les yeux de la famille, hein, ce que j'appellerais l'écriture par amalgame. Dans l'idiot de la famille, on lit au deuxième tome, page 1973, je pense que je cite l'ancienne édition, mais bon, au chapitre 26 de la première éducation sentimentale, Sartre explique que Jules veut acquérir le style. Et pour cela, il imagine une addition, une fusion des qualités propres aux différents siècles de la prose française. La sève de la Renaissance, la limpidité du XVIIe siècle, la netteté analytique du XVIIIe siècle. Sartre glose la chose ainsi. Jules aimerait que son écriture fût un plat complexe qui réunit, subjonctif imparfait, tous ces éléments. Le jeune auteur, lui, n'apporterait personnellement que le secret du dosage. Qu'en est-il de Flaubert plus âgé? On regrette que Sartre ne le dise pas. Est-ce encore un écrivain qui dose, n'est-ce pas, des éléments empruntés à droite et à gauche? En tout cas, Sartre, lui, et pas seulement dans sa jeunesse, pratique le pot-pourri, l'amalgame, et garde soigneusement le secret du dosage. Comme Céline l'a très bien dit, Sartre écrit toujours à la manière d'eux. DEX, n'est-ce pas? C'est dans le célèbre pamphlet L'agité du bocal. Mais en fait, Céline a tort. Sartre écrit à la manière 3, 4, 5. Il multiplie et amalgame les intertextes. Et il dira un jour à Serge Dubrovski, l'articulation de ces différents éléments et de ces différents styles, pastichés et parodies, c'est mon style. Bref, pour reprendre la distinction que propose Jean-Pierre Bertrand dans Inventer en littérature, l'invention chez Sartre n'est pas paradigmatique, c'est-à-dire elle ne procède point par création de modèles résolument nouveaux. Résolument nouveaux, même s'il procède d'une histoire, hein. Le poème, mais en prose, le vers, mais libre, le monologue, mais intérieur. Non, l'invention chez Sartre serait syntagmatique. Elle redispose à nouveau frais des formes éprouvées par la tradition. Sans que les assises formelles changent radicalement, il y a malgré tout évolution. De quel côté situé Flaubert? Ben, je vous pose la question à vous, étant bien empêché d'y répondre. Enfin, s'il y a un reflet entre deux conceptions de l'écriture, c'est parce que Sartre, en s'interrogeant sur Flaubert, tente de répondre à une question qui le hante, et pour cause. Comment devient-on écrivain? Et le cas de Flaubert lui livre trois indications majeures. La première, c'est qu'il faut avoir fait le choix de l'imaginaire. Enfant qui, selon Sartre, se serait senti humilié par son père, Flaubert très vite fuit la sombre réalité. Paradoxe pour celui dont la Madame Bovary sera poursuivie en justice pour réalisme, Flaubert très vite aurait opté pour la déréalisation et même la mise à mort du réel. Le monde, il le voit de très haut et de même le jeune Sartre, qui, dans les mots, nous apparaît comme plongé dans l'imaginaire. Tout récemment, un libraire de Versailles, spécialisé dans la vente de manuscrits autographes, m'a donné à déchiffrer un feuillet inédit appartenant aux avant-textes des mots. Ma première réaction fut bien sûr d'appeler la police judiciaire. Mais bon, je me suis dit, pourquoi dénoncer finalement les petits trafics? Je me suis donc contenté de déchiffrer le dit feuillet inédit. Et dans ce feuillet, on trouve le terme bovarisme que Sartre s'applique. Il souffre de bovarisme vivant dans l'imaginaire. Et l'intéressant est que ce terme de bovarisme n'apparaît jamais dans le texte publié des mots. Je peux vous le garantir, ayant un index du dit livre. Donc, le choix de l'imaginaire. Bon. Ça peut paraître un peu idiot, mais ça n'est pas si idiot que ça, alors qu'on voit les conséquences que Sartre en tire, et notamment cette option offensive qu'il reconnaît chez Flaubert contre certaines propriétés de l'univers. Je vais y revenir. Deuxième trait, deuxième condition du devenir écrivain, comment devient-on écrivain? Le célèbre mot, pour apocryphe qu'il soit, Madame Bovary, c'est moi, suggère qu'un écrivain doit en passer, c'est une formule de Sartre dans Question de méthode, par la féminisation de l'expérience. La féminisation de l'expérience. Et Sartre, reprenant un mot de Proust, s'était défini lui-même dans les carnets de la Drôle de Guerre comme un homme-femme. Peut-on être écrivain sans être un homme-femme? Troisième condition, point d'écrivain sans un rapport, pardon, singulier au langage. Évidemment, Flaubert a souffert de sa difficulté à apprendre ses lettres, mais il a aussi, de ces moments difficiles, retenu quelque chose d'essentiel, le sentiment de l'étrangeté de la langue, une aptitude à saisir les lieux communs, une fascination pour les calembours où le verbe semble s'agiter de lui-même, pardon, le goût de rêver sur l'opacité des mots, puisque, somme toute, son père lui dit tu es l'idiot de la famille, et que le petit Flaubert ne comprend pas. Le langage reste opaque. Mais c'est cette opacité du langage que Flaubert va travailler pour devenir écrivain. Finalement, la question qui se pose, c'est que cette bêtise d'enfant, non seulement est l'objet de la malédiction que le père lui adresse, mais elle est aussi la source d'une réflexion linguistique. Sans doute est-ce sa sensibilité, entre guillemets, idiote à l'égard du langage qui fonde en Flaubert, c'est en tout cas la thèse de Sartre, la faculté de littérature. Alors on voit tout de suite la question générale qui se pose. Faut-il commencer par être un peu idiot pour devenir un grand écrivain? Sartre, en tout cas, manifestement, répond oui. Et c'est pour cela qu'il se montre prodige et idiot dans les mots. Alors bien sûr, il s'agit aussi pour lui de prendre ses distances. L'enfant choyé des mots n'est quand même pas l'enfant Gustave humilié par son père. C'est dans les entretiens avec Simone de Beauvoir de l'été 1974 que Sartre évoquera ses démêlés avec son beau-père. Et après tout, lui ont peut-être dit, sinon tu es lié de la famille, du moins, ça c'est ce que Sartre raconte. Tu ne sauras jamais parler aux femmes. À propos un peu humiliant, n'est-ce pas? Mais cette version est moins brillante, moins marquante que celle des mots. Peut-être aussi le grand-père a-t-il pu à tel ou tel moment humilier le jeune Toulouse, c'était l'hypothèse de Josette Pacali, mais le texte des mots ne la soutient pas avec précision. Donc, enfant choyé d'un côté, enfant humilié de l'autre, pour grossir le trait. Deuxièmement, Flaubert, on le sait, accepte la Légion d'honneur sous le Second Empire. Mais Sartre l'a refusé, la Légion d'honneur, que Raymond Aron voulait lui faire donner immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. La maman de Sartre était toute contente. Sartre a fait intervenir un autre ami pour expliquer à Aron que c'était vraiment une mauvaise idée. Il a même refusé, monsieur Lessenière, le prix Nobel. Il n'a pas participé aux soirées d'Yvonne de Gaulle, qui devait pourtant être sauvage, ou de Madame Claude Pompidou, alors que Gustave, lui, s'est abandonné aux soirées de la princesse Mathilde. Le fait est que Sartre s'est construit contre Flaubert tout autant qu'il a été fasciné par lui, construit contre une certaine inhibition qu'il repère chez Flaubert devant l'action, devant la vie, devant peut-être la praxis. D'où l'intérêt de cette scène de l'idiot de la famille, où l'on voit Zola demander à Flaubert, qui élude, pourquoi, Flaubert, n'écrivez-vous pas un roman du Second Empire, un roman de ce temps? Tome 3, page 656. En ce sens, cet énorme ouvrage serait aussi un long exorcisme. On pourrait construire une analogie. Sartre serait dans la même relation à Flaubert que Flaubert à ses personnages. Pourquoi dis-je cela? Parce que je me souviens d'un passage du journal de Charles Dubos, Dubos, je ne sais plus comment on dit. Charles, ah, pour le Chardy. Ah oui, voilà, il s'appelait Charlie pour les amis. Donc, le passage du journal de Charlie. Flaubert ne s'est si violemment exercé contre les personnages les plus vulgaires de ses livres que parce qu'il les vomissait d'un certain fond de lui-même, qu'il cherchait grâce à eux à exorciser. Journal, 29 août 1921. Peut-être s'entend-il lui aussi chercher à exorciser ce personnage de son théâtre intime et de sa culture intime et de sa bibliothèque intime qu'était Gustave Flaubert. Un des moyens de la prise de distance, Gustave, et de mes familiers, de ma famille, mais pas trop quand même, ce sera de faire de l'idiot de la famille un terrain d'expérimentation méthodologique. Bon, mais je vois bien que j'arrive à 1 heure de causette, n'est-ce pas? Donc, je vais laisser cliquer les points 4 et 5. Le point 4, c'est pas très grave, c'est parfaitement dépourvu d'intérêt, c'est la théorie de la famille dans les questions de méthode. Le point 5, c'est un peu dommage, parce que évidemment, j'arrivais quand même à l'essentiel, par vivement, n'est-ce pas, tel l'escargot déchaîné. Et cet essentiel, donc, c'est la vraie famille d'un écrivain, ce sont les mots. Vous me donnez 3 minutes pour expliquer 2 choses?
Bien sûr.
Merci beaucoup. Donc, il faudrait retenir 3 idées. La première, c'est que Flaubert et Baudelaire sont, selon l'idée de la famille, les fondateurs de la modernité littéraire. Sartre le dit, et il le dit en toutes lettres. Je vais quand même ouvrir une fois l'ouvrage du programme, n'est-ce pas, que l'on doit faire dans les leçons d'agrégation, pour prouver que je l'ai lu. À cette époque, il n'y a que 2 hommes, 2 très jeunes gens, à pressentir et à forger la littérature moderne, Baudelaire et Flaubert. Pressentir et forger la littérature moderne. Autant vous dire que toutes les thèses de Bourdieu sur Flaubert et Baudelaire comme nomothètes viennent en droite ligne de l'idée de la famille, comme 1000 autres choses. Flaubert appartient donc au début de la modernité littéraire. Qui a pour la première fois formulé cette idée? Il est peut-être le début de la modernité littéraire. Peut-être est-ce Barthes dans le Désolé d'écriture. Enfin, vous le savez mieux que moi. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qui ferait cette modernité de Flaubert? Eh bien, l'essentiel, c'est le rôle qu'il accorde au silence. La chose est difficile à expliquer, mais pour résumer, ce qu'invente Flaubert, c'est une nouvelle conception du style. Le style ne relève plus de l'éloquence, le style ne relève plus de la rhétorique. C'est la fin de la littérature discours. Alain Vaillant analysera ça dans différents textes bien postérieurs à l'idée de la famille. Le style n'est pas non plus une surabondance de trouvailles, une série de joyaux. Le style n'est pas non plus le simple effet d'une vision aiguë. Non. Le style, je cite l'idiot, tome 2, page 1623, c'est l'idée en tout cas que Sartre voit chez Flaubert. Le style apparaît quand on fait parler la partie muette du langage. Le style apparaît quand on fait parler la partie muette du langage. Alors, il me faudrait un bon moment pour expliquer le détail de la chose. Hein. C'est dommage, c'est mal organisé. Disons que je vais passer sous silence le silence et je vais conclure. Donc voilà le début de la littérature moderne. La décision de ne pas abandonner les significations directes, mais d'en faire les moyens indirects, de rendre présent l'indisable, de rendre présent l'inarticulable. Ce qu'avec Flaubert on apprend désormais, c'est qu'il y a le plan des significations, la fonction signifiante du langage, dit Sartre, et le plan de l'indirect, le plan du sens, un sens qui se confond avec du silence. C'est ce que Sartre appelle aussi la fonction imageante du langage. Mais attention, imageante, c'est un mot compliqué parce qu'il renvoie d'un côté au mimologisme, le mot comme objet, le mot qui peint, et d'un autre côté, il renvoie à l'imaginaire. Et c'est évidemment dans l'imaginaire, c'est-à-dire les connotations associées par un écrivain à tel mot, que gît le silence. Le silence est là parce que chacun d'entre nous a ses connotations, mais doit imaginer celles de l'autre qui sont tues par lui. L'indisable est dès lors dans chaque phrase de Flaubert. On pourrait d'ailleurs lire peut-être dans certains mots de Flaubert, critiquer le silence. Sartre ne montre pas comment il est dans la syntaxe de Flaubert. Ça paraît la grande faille de ce livre. Je dirais aussi que cette part du silence, Sartre en a été hanté durant toute sa carrière, dès les années 1930, dès la nausée, notamment parce qu'il a laïcisé et déplacé un modèle mystique d'écriture qui lui venait de ses études avec Jean Barouzy, quelque chose qui était très important dans les années 1920. Mais vu de là où nous sommes, on a désormais aussi l'impression que Sartre a intégré à sa réflexion la pensée de Maurice Blanchot sur la littérature, n'est-ce pas? C'est-à-dire le refus de la signification facile. Et quand on est encore un peu plus soupçonneux, on se dit, mais cette obsession du silence, est-ce qu'elle ne remonte pas plus loin? Todorov, dans son chapitre sur la crise romantique des théories du symbole, consacre quelques pages à l'indicible. Et il montre comment les romantiques allemands, qui se souviennent de la définition kantienne de l'idée esthétique, chère à Philippe Dufour, n'est-ce pas, en viennent à penser que l'art exprime ce que la langue ne dit pas. Et que l'un des traits principaux de l'esthétique romantique, c'est l'expression de l'indicible. Alors ce serait quand même farce, hein. Il y a quelque chose qui m'apparaît, et je conclue là-dessus, de l'ordre de la blague supérieure. Sartre aurait été influencé via Blanchot, qu'il a lu, par les romantiques allemands, qu'il n'a pas lu. Mais ipso facto, eodem tempore, hélas, hélas, revoilà Sartre un homme du 19e siècle, du début du 19e siècle, un homme, c'est donc Foucault qui avait raison, Sartre infecté via Blanchot par le romantisme allemand. Sartre, qui pensait faire de Flaubert un écrivain post-romantique, le reconduirait en fait, à force d'insister sur la part du silence, vers le romantisme. Nous sommes dans la blague supérieure, il est temps de se taire. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Jean-François Alouette, pour cette très belle communication.